qu'une guerre était inévitable ou pas ?
Ça, c'est clair, c'est-à-dire que par les temps qui courent, revient très à l'avant-scène la thèse selon laquelle la guerre a découlé d'une espèce d'enchaînement d'événements fatals, imputables en particulier aux politiques et aux militaires. C'est une thèse qui a eu grand succès, puisque en particulier, on a accordé un très très grand succès médiatique à l'auteur Clark qui vient de faire l'ouvrage sur les somnambules. Même en France, j'ai remarqué que dans le monde, Nicolas Offenstadt s'était beaucoup préoccupé de ce qu'il appelle les idées reçues sur la Grande Guerre, idées reçues, clichés qui gênent la connaissance en particulier. Le premier élément, c'est que, je le cite, il ne faut pas croire que la guerre ait été la responsabilité des industriels et des financiers, ou plus exactement, dit-il, que la guerre était souhaitée par les industriels et les financiers. Le problème n'était pas qu'elle fût souhaitée, le problème était qu'elle fût inévitable ou pas. Et alors il explique qu'il faut en fait contester les interprétations marxistes des origines de la guerre, c'est-à-dire en gros, c'est une espèce de consensus contre les thèses que développe Lénine dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, où il expose que la guerre en train de se dérouler est une guerre de partage et de repartage du monde entre puissances impérialistes, les nouvelles, les anciennes. La crise de 1873 était encore très présente à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle avait même connu une très forte accélération au début du XXe siècle, extrêmement forte, en particulier avec une grosse poussée en 1907, qui se mesure d'ailleurs directement et immédiatement par l'accentuation des conflits à l'intérieur de l'Europe et sur ses abords, notamment dans l'Empire ottoman. C'est aussi une guerre de conflits coloniaux, c'est une guerre qui a été précédée par une multitude de conflits coloniaux. Donc on est au cœur de conflits et à l'intérieur de l'Europe, et hors de l'Europe, puisque les puissances européennes sont des puissances coloniales qui tirent une partie énorme de leurs ressources des colonies, on est au cœur d'un conflit capitaliste au terme d'une crise qui a duré 40 ans, et d'ailleurs que la Première Guerre mondiale ne suffit pas pour que les choses repartent sur une base capitaliste saine. Et je signale que la crise systémique de 1929-1931, parce que c'est en 1931 qu'elle devient vraiment systémique, cette crise, elle surgit au bout de 10 ans.
Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931. Grève dans les textiles, grève chez les dockers, grève dans la batellerie. Les paysans manifestent, parfois violemment, contre les mesures agricoles. En Allemagne, le régime nazi, que la crise a contribué à porter au pouvoir, lutte contre le chômage par des manifestations spectaculaires que préside le Führer.
Cette guerre, comme la suivante, comme d'ailleurs toutes les guerres, mais enfin évidemment avec un caractère tout à fait spectaculaire avec les guerres générales, cette guerre, précisément, est une réplique à la baisse du taux de profit. Alors qu'on s'entende, la baisse du taux de profit dans les crises, elle est générale, mais ce qui est caractéristique du XXe siècle et de ces énormes guerres générales, c'est que finalement la guerre se noue sur la question du taux de profit des plus grandes entreprises. Parce qu'on est, avec la Première Guerre mondiale, dans un cadre de concentration monopoliste de l'économie, qui fait que la question posée dans la Première Guerre mondiale, c'est la question du profit des plus grands groupes. Or, à la faveur de cette guerre, le profit monopoliste connaît une accélération absolument inouïe. C'est-à-dire que, effectivement, la crise du profit est non seulement arrêtée, mais le taux de profit se redresse d'une manière spectaculaire, exactement comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'une part, par un renforcement inouï des rapports entre la puissance publique et le capital privé, avec le capital privé qui entre